Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement, bonne émission.
La cocaïne aujourd'hui, elle est partout. Moi, j'ai commencé, c'était il y a 10 ans déjà. C'était pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui. Il y en avait, mais c'était plus par classe sociale ou par classe de... Je vais dire classe festive. C'est-à-dire c'était soit la jeunesse dorée, soit le milieu techno underground. Des gens, voilà, la techno il y a 10 ans, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Et donc, je dirais que c'était deux classes comme ça, auxquelles j'ai d'abord commencé par la classe jeunesse dorée, de laquelle je venais pas fondamentalement, mais j'avais pas de repère à la maison, j'avais pas d'identité, etc. Et donc comme il y avait beaucoup de paillettes, beaucoup de bling bling, des marques, de l'argent, tu vois, je me suis accroché à ce milieu-là pour créer mon identité. Et dans ces gens-là, il y avait de la consommation, quoi. Tout le monde en consommait pas, mais c'est voilà, dans les gens qui sortaient à l'époque, etc. C'était un des seuls milieux où il y avait vraiment, où on savait qu'il y en avait, et il y en avait pas mal. Après, il y en a toujours eu partout, mais je veux dire, avant, pour moi, il y a 10 ans, il y avait vraiment deux catégories distinctes. Et donc, moi, j'organisais des soirées, j'étais extrêmement populaire. Donc, moi, je n'avais pas les moyens que les gens que je fréquentais avaient, mais par contre, j'avais un capital social, quoi. J'organisais des soirées, on faisait des soirées avec 2-3 000 personnes. Moi, j'avais 17 ans à ce moment-là, donc tu vois, c'était incroyable. Et donc, j'étais dans un contexte de... Comment dire, ça bouillonnait tout le temps, quoi. Tu vois, tu sais, t'as 17 ans, tu imagines, enfin, ici on est à Paris, mais moi c'était à Liège en Belgique, imagine, tu te balades dans Paris et tout le monde t'arrête dans la rue. T'as 17 ans, tout le monde t'arrête dans la rue parce que t'es le mec qui, enfin, j'étais pas tout seul, mais je suis le gars qui fait partie de l'organisation. Donc t'as un peu des ailes qui poussent, quoi, tu vois, à cet âge-là, surtout moi qui étais en quête d'identité et avec un environnement familial très, très violent et compliqué dont je voulais tout le temps fuir, en fait. Donc du coup, mon refuge, c'était un peu ça, les strass, les paillettes, les boîtes de nuit, les bouteilles en boîte et compagnie. Et c'est dans ce cadre-là que je découvre et que je sais qu'il y en a. Et donc, comme je suis organisateur de soirées, un jour, on a une soirée où on fait venir... je passe l'après-midi avec Aurel San, j'ai Afrojack, tu vois, qui vient à la soirée. Et je dis, j'ai 17, je vais vers mes 18 ans. Donc, tu vois, c'est moi qui accueille à l'époque Aurel San. Je passe 2-3 heures avec eux pour leur faire découvrir Liège. La soirée arrive, 2000 personnes dans la salle. Soirée incroyable, tous les potes qui sont là, etc. Et puis, je croise des gens dans les backstage que je connaissais, mais j'étais assez écarté du monde de la consommation. J'étais pas anti-drogue, mais je disais aux gens, faites ce que vous voulez, mais moi, ça me regarde pas. Donc, du coup, j'étais pas intégré, tu vois, je faisais pas partie des groupes, etc. Et là, je passe derrière des backstage, et comme l'adrénaline est à son comble ce soir-là, je me dis, tu sais quoi, si jamais je dois essayer un jour, c'est aujourd'hui, quoi. Et donc là, je trouve les deux gars que je connaissais en train de se faire des rails sur des barres en métal derrière un backstage. Et je leur demande de me faire essayer, quoi. Mais ils se posent pas la question, ils se disent pas... pour eux, c'est comme si quelqu'un d'autre avait demandé. Et en plus, je suis un des organisateurs de la soirée, donc pour eux, c'est presque un honneur, tu vois, de me filer ce qu'ils ont dans la poche. Et je prends une ligne, mais pour moi, c'est anodin, quoi. Je sais pas, je connais rien de la substance. Je sais pas que la plupart des consommateurs, en fait, c'est après une ligne, il y en a une deuxième, et puis que ça continue, etc. Pour moi, dans ma tête, après une ligne, j'avais pris de la coke, et puis ça passait, tu vois. Et ce soir-là, je me rends pas compte que je fais pas la rencontre du produit, si tu veux. Je sens que j'ai des effets, mais je sais non seulement pas à quoi m'attendre, ni en plus, j'ai beaucoup bu d'alcool ce soir-là, donc puisque comme je te le disais, l'adrénaline, le manque de sommeil, tout ça, je me rends pas vraiment compte que je suis sous les effets d'un truc, si ce n'est que je suis éveillé, beaucoup plus éveillé que d'habitude. Et comme il y a beaucoup de mouvements et que je vais de gauche à droite pendant la soirée, à un moment donné, je passe derrière un backstage et je glisse sur des barres en métal qui sont mal rangées et je tape mon tibia, mais très, très, très fort sur la barre en métal et ça fait un bruit de fou. Mais bon, moi, je l'entends, je sens le choc, etc. Et en fait, je continue, tu vois, et c'est seulement le lendemain matin que je me rends compte que j'ai le tibia qui est ouvert, C'est pas grave, mais voilà, j'ai tibia qui est ouvert, j'ai un gros bleu. Et là, je me rends compte qu'il y avait l'effet antidouleur, quoi, alcool plus cocaïne. Et donc, c'est ça qui, moi, le rappel de la première fois sous cocaïne, c'est boost d'énergie, baisse de la sensation d'alcoolémie et l'effet antidouleur, quoi. Et ça, c'est la première fois que j'en prends une ligne. Et en fait, il se passera quasiment un an avant que j'en reprenne une deuxième fois. Mais la deuxième fois que j'en ai repris, en 3-4 semaines, j'étais dedans, quoi.
Donc ça commence dans un contexte festif, comme tu nous le
Ouais.
décris. Est-ce que c'est souvent le cas? Est-ce que ça, de ton expérience, des rencontres que tu as pu faire, des échanges que tu as pu avoir, est-ce que ça débarque souvent dans une vie avec ce contexte festif, justement?
Ben en fait, festif ou pas festif, c'est l'environnement qui est important. Et le milieu festif favorise la prise de stupéfiants parce que, faut pas oublier que enfin, c'est à la base, la plupart des gens, souvent, ils vont chercher du plaisir à travers un produit. L'alcool aussi, le cannabis pareil. Donc les milieux où il y a déjà une recherche à la fois de plaisir ou de s'évader ou de, tu vois, de voilà, d'être dans un état de conscience modifié, forcément, ça va favoriser le potentiel de personnes qui vont en avoir sur eux. Et comme pour toutes les drogues quasiment, l'aspect environnemental et social est très important parce que le premier vecteur de consommation, ça va être le proche, la personne qu'on connaît. Parce que tu vois, si, c'est pour ça que si papa-maman fume, tu auras plus de chances de fumer parce que tu auras vu l'exemple et que tu auras eu des habitudes devant toi, etc. Et à l'adolescence, un des trucs les plus dangereux, enfin dangereux ou en tout cas les plus à risque, pour la consommation, il y a non seulement l'état psychologique, la manière dans laquelle tu as grandi, ta capacité à aller chercher des ressources autour de toi, que ce soit parler avec tes parents ou bien aller voir des, je sais pas moi, un psychologue, etc. Donc ça, c'est la capacité à trouver les ressources pour aller mieux. Mais si tu n'as pas ça et qu'en plus de ça, tu as des amis qui, voilà, pour une raison ou une autre, fument un peu des pétards et boivent des bières et compagnie, bah, tu vois, tu es dans l'environnement. Parce qu'il y a aussi à l'adolescence la recherche du risque. Enfin, c'est une période où, d'un point de vue hormonal, etc., on est quand même bien chaud. Et donc, c'est souvent pour ça qu'à l'adolescence, c'est un moment qui cristallise pas mal d'addictions. Et c'est souvent aussi la naissance peut-être d'une ou des addictions qui viendront plus tard. Parce que tu as le terreau, quoi. Et tu me parlais de ça, c'est le milieu festif. Oui, mais pas que le milieu festif de la soirée, des boîtes de nuit, etc. C'est le contexte où on se retrouve entre copains, entre êtres humains pour voilà, rigoler, prendre du plaisir, etc. Et donc voilà, clopes, cigarettes, cannabis, en général, c'est par là que ça commence. Mais voilà, une fois que tu as essayé les substances, une fois, et puis plus tu avances, et plus tu te dis, bon, c'est cool, mais j'aurais envie de, tu vois, d'autres choses. Et puis tu grandis, bah, tu entends des gens qui te parlent d'autres produits, et puis tu les vois. Et puis, alors, il y a 10 ans, on en parlait moins. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle soirée, tu sais que ça existe, et c'est, je veux dire, c'est plus un secret pour personne, quoi.
Comme tu le disais, enfin, tu disais que c'était il y a 10 ans que tu avais cette perception. Moi, honnêtement, je l'ai toujours un peu, de la consommation sociale, on va dire, avec la jeunesse dorée et un milieu plus techno, ou alors on a aussi ce truc de on en consomme de la cocaïne dans le show business. C'est quoi qui a changé aujourd'hui? Pourquoi c'est devenu plus démocratisé, on va dire?
Déjà le prix et puis c'est des tu sais c'est un marché hein, c'est un marché financier donc il y a des gens qu'on il y a un marché global qui cherche des consommateurs donc qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 10 ans? Les prix ont chuté, la qualité est de plus en plus pure, donc ça c'est des chiffres enfin l'OFDT, enfin tous les chiffres disponibles sur les saisies à la fois sur les consommateurs etc. T'as un produit de plus en plus grande qualité et t'as des prix qui sont divisés par je sais pas combien chaque année. Donc aujourd'hui, il y a une différence entre la France et la Belgique. Moi en Belgique, elle a toujours été plus ou moins à bon marché. Donc on était aux alentours d'une cinquantaine d'euros le gramme ou 60 euros le gramme. Je sais que sur Paris ou sur d'autres villes en France, on va des fois atteindre 70 ou 100 balles pour 1 gramme. Donc ça, c'est déjà. c'est plus difficilement accessible, même si ce qui se passe, c'est que les jeunes vont partager en fait des doses, etc. Et puis le pouvoir d'achat va évoluer avec l'âge, et donc tu vas avoir ton premier job, puis tu vas être employé, etc. Donc là, tu vas avoir un pouvoir d'achat qui te permet d'acheter. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu en as chez les métiers manuels, tu en as chez les métiers intellectuels, tous les métiers qui favorisent un peu la compétition, ceux qui sont dans les sales, qui sont, tu vois, les ambiances où tu as une cloche à faire sonner quand tu signes un gros contrat. Bah, tout ça, c'est des endroits où ça favorise en fait. Le contexte favorise la prise de, et je parle spécifiquement de cocaïne, mais à côté de ça, bah, tu as l'alcool, tu as la MDMA, les pilules et compagnie. Et donc, c'est des réseaux qui ont été développés par des dealers. Et puis, une société qui est de plus en plus anxiogène en réalité, c'est qu'on a de plus en plus d'emmerdes à gérer au quotidien, de moins en moins de ressources ou la capacité d'aller chercher les ressources pour aller mieux. Donc forcément, à l'intérieur, ça bouillonne. Et le truc, c'est que bah, comme on sait la plupart du temps que, par exemple, avec l'alcool, on va s'évader ou tu vois, on sait que si on fait l'acte de consommer de l'alcool, on va avoir un effet. Et on sait que ça va peut-être nous dévier un petit peu de l'état dans lequel on est. Mais on a intuitivement la même réflexion avec les autres drogues. Et le truc, c'est que bah, tu vas peut-être tester une, deux, trois drogues. Et puis le jour où tu vas tomber sur la drogue qui, toi, te fait le truc, moi, c'était la coke, ça fait paf. Et puis après, bah, voilà, tu vois, si tu as le mauvais environnement, les mauvaises conditions, et en plus de ça, le trop gros besoin de t'échapper de là où tu es, eh ben, tu tombes sur le produit et puis ça avance quoi. Et donc en fait il n'y a aucune population, aucun secteur qui est épargné, parce que même à la campagne aujourd'hui tu sais en trouver très facilement à des prix accessibles.
Tu nous l'as dit aussi, tu en as consommé une première fois et après il a fallu un an pour que tu en reconsommes. Ouais. Pour quelles raisons? Juste t'as pas eu envie d'y retourner? Ça t'est pas passé par la tête? Est-ce que c'était conscient de ne pas vouloir y retourner ou c'était juste un concours de circonstances?
Il y avait un peu des deux. Il y avait le fait que mon identité n'était pas de consommer de la drogue. Et donc du coup, en fait, c'est cette identité-là qui s'est brisée un peu avec les mois, avec le temps. Parce qu'en consommant une fois, bah, j'ai rencontré des gens qui allaient dans d'autres soirées, etc. Et en fait, je suis rentré petit à petit dans un cercle de personnes où bah, déjà, je savais qui consommait, je savais où ça se passait, comment ça se faisait. Et en fait, c'est con, hein, mais quand ton éducation commence à se développer sur le sujet, t'en as moins peur, t'es moins, tu vois, tes croyances, etc. sur le sujet se brisent. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que bah, tu vas avoir moins de barrières, quoi. Si tu n'en as jamais pris et que tu vois les gens une fois le faire devant toi, soit ça te bloque et tu te dis « moi, je ne veux plus jamais voir ces gens-là », soit tu te dis « bon, ok, c'est un peu bizarre, mais voilà, sans plus ». Quand ils l'auront fait 10 fois devant toi, tu vas dire bah, « en fait, moi, je peux le faire aussi, puis s'ils sont toujours debout, tu vois, il n'y a pas de problème ». Et donc, moi, je suis un peu dans un contexte comme ça, tu vois, toujours dans le milieu de la nuit, mais comme maintenant, j'ai pris, je sais qui prend, et donc, du coup, je me rapproche tout doucement des gens. Et le truc, c'est que j'ai une période extrêmement compliquée émotionnellement. J'ai une copine qui me quitte, il y a de la trahison, un genre de tromperie. Et donc, il y a une espèce de harcèlement moral qui se met contre moi parce que, bah, à 18 ans, le crédit social que j'avais, la moindre chose, ils s'en sont servis pour me faire redescendre. Et donc, du coup, j'ai eu le contre-coup de cette popularité. Et donc, du coup, bah, voilà, à la maison, ce n'est pas un endroit ressource. À l'extérieur, ce que je pensais être un endroit ressource était non seulement pas un endroit ressource, mais en plus une bulle quoi, qui a éclaté. Et à ce moment-là, je sais très bien où aller et qui aller trouver pour en consommer, quoi. Et donc à ce moment-là, moi je le demande à quelqu'un. C'était une soirée qu'on organisait, mais un peu plus petite, et je lui dis, écoute, est-ce que t'as pas de la cocaïne sur toi? Il m'a filé son sachet, mais encore une fois, genre naturellement, tu vois, c'était pas, c'est même pas question d'argent, pas question de poser de questions. Si, attends, il l'a cherché, il l'a prise, il me l'a donné. Et là, par contre, moi, j'avais conscience que je rentrais dans quelque chose, quoi, tu vois. Parce que la démarche d'aller la chercher, de la prendre, c'était, il faut que ça s'arrête, tu vois. Dans ma tête, dans mon corps, moi, j'avais le thorax, la poitrine resserrée en permanence, et je ne savais pas d'où ça venait, une espèce d'angoisse existentielle, un stress insoutenable depuis toujours, mais qui était exacerbé à cause de l'environnement dans lequel j'étais, quoi. Et là, je prends deux, trois lignes sur la soirée. Et pareil, genre, je dors pas, tu vois, mais je réalise pas ce jour-là, tiens, ok, c'est ça la cocaïne. Par contre, ce soir-là, je prends un numéro de dealer, et à partir du jeudi d'après, là, je suis devenu directement autonome, et c'est devenu hebdomadaire, en claquant des doigts, quoi.
Ok, donc de base, ça s'inscrivait dans un contexte festif, pardon, qui était alimenté par ton entourage, des circonstances que tu vivais, personnelles, familiales, amoureuses, là. Et après, ça s'est inscrit dans ton quotidien. Est-ce que tu l'as réalisé tout de suite? Est-ce que c'était une démarche consciente que tu voulais que la cocaïne fasse partie de ton quotidien? Ou c'était plus au gré des journées où tu disais, ah oui, pourquoi pas? Est-ce que c'était une démarche consciente ou pas?
Alors moi, je prenais pas de, j'en ai jamais pris tous les jours. C'était hebdomadaire et festif, mais finalement, comme plein de gens aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, la phrase c'est ouais, mais je prends de la coke que quand je sors. Ouais, mais tu sors du mercredi au dimanche. Tu vois, ça c'est la phrase que j'entends tout le temps. C'est les potes de potes qui me disent, mon pote est en train de déconner avec la coke, parce qu'au début c'était une fois de temps en temps, et puis aujourd'hui ils se défendent en disant, ouais, mais c'est que quand je vais boire un verre. Mais sauf que les mecs sont en train de boire des verres de mercredi à dimanche. Donc moi, c'était un peu ça. C'était au début tous les vendredis en sortie. Et puis je rentrais chez moi et je dormais pas parce que j'étais allumé à cause de la cocaïne. Et donc je rentrais chez moi à 5-6 heures. Le lendemain, en plus, je bossais. Donc enfin, je faisais nuit blanche, j'allais bosser. Et petit à petit, ça a été jeudi-vendredi, puis mercredi, jeudi-vendredi, puis mercredi jusque dimanche. Mais tout ça a pris quelques années en fait. Ça se fait pas du jour au lendemain. Tu commences pas à prendre de la coke du jour au lendemain. Déjà, il faut le temps que ton corps s'identifie au produit et que tu vois, tu as une accoutumance qui s'installe quand même. Tu peux pas prendre les quantités que moi je prenais quand j'avais 7 années de consommation. Tu les fais prendre à quelqu'un qui n'en a jamais pris, il survit pas, tu vois. Donc ça prend du temps. Moi, ça a été assez linéaire. Il y a eu une exponentielle la dernière année. Pour des raisons, voilà, c'est le moment où moi je me rends compte de l'environnement familial dans lequel j'ai grandi. Donc j'ai le ciel qui me tombe sur la tête, je me rends compte que ma mère me manipulait depuis que je suis né, etc. Et que bah, je dois m'enfuir, sauf que j'ai pas de papa, pas vraiment de papa, mon père est vivant, mais il est alcoolique et il n'est pas une ressource pour moi. Et ma mère, de l'autre côté, c'est une personne non seulement manipulatrice, mais dangereuse. Et donc à ce moment-là, cette dernière année-là, je suis monté sur des quantités qui sont impressionnantes avec de la polyconsommation, donc alcool, MDMA, cocaïne, tabac. Et c'était des week-ends de 72 heures sans dormir et tout ça, des fois en prenant le volant, tu vois, c'était la prise de risque maximale pour ma santé et ma vie, mais aussi celle des autres. Et tout le monde faisait ça, tu vois. Et en fait, donc comme je disais, ça a été linéaire pendant 6-7 ans. Mais la dernière année, si je continuais dans cette direction-là, je ne serais pas là aujourd'hui, tu vois. Donc des fois, ça peut s'installer vraiment dans le temps, progressivement. Enfin, c'est même pas des fois, c'est quasiment à chaque fois, tu vois. C'est vraiment très rare que tu passes accro du jour, ça arrive, mais enfin, j'ai quand même plus de témoignages de cette progression que l'inverse, quoi. Il y a toujours il y a toujours des degrés, toujours des moments où tu passes une étape et puis une deuxième, une quatrième. N'importe quel addict que tu pourras avoir devant toi se rappellera de ces paliers, de ces moments où en fait tu montes en consommation, mais en fait tu fais que descendre, quoi. Tu creuses ta tombe un peu plus chaque mois, chaque semaine ou chaque année. Donc ouais.
Ouais, c'est toujours graduel. Ok. Tu parles de ton entourage donc qui n'était pas très, qui n'était pas dans dans le soutien ou je sais même pas s'ils en avaient conscience, du moins dans l'entourage familial. Est-ce que dans ton entourage amical ou autre, il y a des gens qui se sont inquiétés pour toi ou qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas de la même manière qu'avant?
Non, alors, enfin, niveau entourage, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc chez moi, c'est environnement à la fois violent, manipulation, c'est de la violence psychologique en très grande partie. À l'adolescence, quand ma mère a vu que je commençais à devenir plus que le petit bébé ou garçon, elle a levé la main deux, trois fois sur moi et il y avait des manifestations de violence physique pour essayer de garder le contrôle. Donc ça, c'est le contexte familial maison, donc pas une ressource. Et en plus, dans la typologie de ce genre de personnalité, ce sont des gens qui sont très isolés, qui contrôlent le milieu dans lequel ils évoluent, parce qu'ils ne peuvent pas se faire démasquer par les autres. Alors ils construisent une belle image d'eux à l'extérieur dans la société, ils sont intégrés socialement au travail, etc. Mais en fait, il y a zéro tissu social. C'est-à-dire, ma mère n'a pas des vrais amis, très très peu, et en général ça change, ça tourne, parce qu'il y a tout le temps des disputes, et donc tu vois, ça dure un an, 2 ans, et en fait ces gens-là sont très très seuls et très isolés, et moi je grandis par obligation à côté de, enfin dans une famille comme celle-là, tu vois. Et donc peu importe où je pouvais essayer d'aller demander de l'aide, bah c'est comme ce prisonnier qui essaie de s'échapper de prison, et il y a de toute façon un garde n'importe où qui va le ramener au bercail, tu vois. Et donc moi, j'ai fait des fugues, j'ai essayé de m'échapper, j'ai fait des kilomètres à vélo pour essayer de rejoindre mon père, des trucs comme ça quand ça explosait trop. Le résultat, c'est qu'on est toujours me rechercher, et donc j'avais absolument aucune possibilité. En dehors de ça, j'ai vu pas mal de psychologues, mais moi, on m'a toujours pointé du doigt, et ça, ça a été le truc de ma mère toute sa vie. C'était que j'étais le centre des problèmes et de sa vie à elle et de la maison et compagnie. Donc moi, comme j'ai l'image pour essayer de représenter un peu l'état dans lequel j'étais, c'est, tu vois, tu prends une boîte à biscuits en fer, tu vois, en métallique, mais elle est vide. Et ben, tu mets un morceau de sucre dedans et tu secoues. Et t'entends les bruits de tac, 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 comme ça. Bah, imagine, c'est moi à l'intérieur. Et donc moi, je suis tout le temps en état de, je sais pas comment je m'appelle, je sais pas où je suis. Et puis après, on me sort de la boîte de temps en temps et puis on m'y remet. Tu vois, c'est tout le temps un espèce d'état de confusion, de fatigue intense, etc. Et donc, comme ça depuis la très jeune enfance. Et donc forcément, moi, j'ai des difficultés à suivre à l'école, je suis un peu hyperactif. Et donc là, on commence à me poser des étiquettes, et ma mère m'envoie dans les centres psychomédico-sociaux, etc. Faut trouver le problème de mon fils, je deviens le centre d'attention parce que je suis la personne désignée du malheur de ma maman et du reste du foyer familial, quoi. Et je me tape des séances de psy, des séances de neuropsy, tout un tas de trucs. On pose des étiquettes sur moi, de plat de bazar, etc. Mais jamais une seule fois, il y a une personne qui m'a regardé, qui m'a dit « on est au courant ». À la limite, on aurait pu me dire « on est au courant, mais on ne saurait rien faire ». Mais au moins, on le sait, tu vois. Et ça, il n'y a personne. On m'a reposé la question il n'y a pas longtemps, justement, c'était une psychiatre qui m'a dit « ouais, mais dans tous les gens que vous avez rencontrés dans votre parcours, il n'y a personne qui a… essayer ou qui vous a fait signe ou quoi. » Et je dis non, moi à chaque fois c'était la double peine, parce que je savais que c'était pas pour le problème, enfin que le problème pour lequel j'allais chez le psy, je savais que c'était pas moi le problème, et en plus de ça, ben, en fait je rentrais chez moi sans solution, quoi. Donc ça, c'est non, jamais personne qui m'a tendu la main, parce qu'il y avait pas de réseau social et parce que tous les professionnels de la santé mentale que j'ai rencontrés, j'étais devant des portes, quoi, qui me disaient rien.
Ouais, alors que je pense que le fait d'être vu et d'être compris, c'est ce qui manque,
ouais,
pour ces adolescents et pour l'adolescent que tu étais.
Bah, ouais, en fait, je sais pas très bien quelles attentes on a à ce moment-là. Tu vois, c'est aujourd'hui, bien sûr, mais c'est... ce qui est compliqué avec le recul, c'est de se dire que... la place d'une personne comme ma maman, c'est soit t'enfermer en hôpital ou soit en prison, tu vois. Et c'est vraiment avec le recul, c'est de réaliser ça qui est compliqué. Parce que quand t'es dedans, la violence, elle est devenue tellement habituelle que, bah ouais, tu t'y es habitué, tu vois. Et c'est quand elle devient invivable qu'à ce moment-là, les produits font leur apparition. C'est quand, en fait, t'arrives plus à sortir et qu'en fait, enfin, tu vois, t'es... Enfin, oui, imagine, tu es en train de te noyer, tu attrapes à chaque fois un morceau de bois, et en fait, le morceau de bois, il est plein de verre, et donc, en fait, tu continues, et donc, tu perds de l'énergie, tu essayes de te démerder, de reprendre ton souffle, etc. Tu construis des projets dans ta vie. Comme tu penses que c'est toi le problème, bah, t'as un biais d'engagement, c'est-à-dire que tu te surinvestis dans tout. L'école, il faut que t'en fasses plus que les autres. Les projets, il faut que t'en aies plus. Enfin, tu vois, dans les relations sociales, etc., il faut tout le temps être au taquet. Donc, en fait, t'es tout le temps à plein régime. Mais en fait, c'est parce que dans les racines, dans les sources qui deviendront les sources de l'addiction après, t'as pas de solution, quoi. Et parce que je me suis pris, j'étais dans un labyrinthe pendant toutes ces années. À un moment donné, la cocaïne, elle est venue me dire, ah vas-y, moi je vais te permettre pendant quelques heures de t'échapper de cette pression constante que tu avais. Donc non, pas de ressources. Et un jour, bon, la ressource, bah, je vais la chercher moi-même, tu vois. Mais c'est la cocaïne.
Et tu nous dis que tu avais consommé du coup pendant 7 ans.
Ouais, plus ou moins,
environ.
Ouais.
C'était quoi ton quotidien Donc on a compris festif pour une grosse partie de la semaine, mais le reste, ça ressemblait à quoi? Est-ce que du coup, tu arrivais à avoir une vie professionnelle épanouie, je sais pas, un rythme de sommeil, ce qu'on peut attendre d'un jeune, parce que tu étais un jeune actif à l'époque.
Ouais.
Ça ressemblait à quoi ton quotidien finalement?
Au début, je bossais en alternance. Donc, moi, j'ai arrêté l'école, j'avais 16-17 ans, pour décrochage, quoi, évidemment. Mais c'était un décrochage qui était dit parce que j'étais un gamin de merde. Alors que, tu vois, la réalité, c'est qu'il y avait d'autres problématiques. Mais enfin, bref, je suis après trois semi-exclusions d'école, je finis par aller bosser en alternance. Pour quand même rester dans le circuit et décrocher l'équivalent du bac, mais en Belgique. Donc on appelle ça le CESS, mais c'est le diplôme qui te permet de valider ton cycle secondaire et d'aller faire des études supérieures par la suite si tu en as envie. Donc moi, je vais quand même faire ça. Et à ce moment-là, la consommation entre en jeu. Et à ce moment-là, bah, je travaille en alternance et je consomme les jours de sortie. Et puis, comme je disais, jusqu'à 20-21 ans, je faisais beaucoup de nuits blanches où je dormais 2 heures avant d'aller bosser. Et puis, tu vois, j'allais bosser, tu vois. Donc ça, c'était au début. Et puis après, j'ai enchaîné sur des études supérieures, donc l'équivalent d'une licence en relations publiques. Et puis là... Là, par contre, j'avais droit au chômage de par mon apprentissage. Et comme c'était des études au cours du soir, mais qui demandaient quand même du travail, des études, etc., j'ai décidé de moins bosser à côté. Donc, je bossais la nuit dans des usines à la chaîne, dans des productions alimentaires, etc. Puis, j'allais au cours le soir. Et donc, je balançais comme ça un peu mes dépenses et compagnie. Et je vivais toujours chez mes parents, donc je n'avais pas de loyer à payer. Et après, c'est devenu plus compliqué parce que les années avançant, j'avais des charges qui arrivaient, des charges de loyer, des charges de voiture, ce genre de choses, et consommation qui grandissait. Donc, du coup, ça devenait de plus en plus compliqué. Mais comme je disais tout à l'heure, sur investissement, je bossais plus pour gagner plus et je me droguais plus. Donc, en fait, le serpent qui se mordait la queue.
Donc au bout de ces 7 années, il y a forcément eu un déclic ou quelque chose qui t'a... Parce qu'on parle souvent de ce déclic, en mode « ça y est, je me suis rendu compte de ce qui se passait ». Ça a été quoi pour toi? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un, une rencontre, un événement où tu t'es dit « ok, c'est plus possible, je peux plus continuer à vivre comme ça ».
Alors moi, le déclic, il arrive d'abord sur ma maman et pas sur la cocaïne. D'abord, je me rends compte que j'ai vécu 25 années sous emprise psychologique et je commence à ouvrir des bouquins en fait sur de la théorie, de choses qui me passaient sous les yeux. Donc on parle de comportement et c'est pas un nom, je dis bien comportement parce que en psychiatrie, ce nom-là n'existe pas et c'est pas officiellement une pathologie, mais je lis un bouquin qui parle de comportement pervers narcissique. Et en fait, je lis le bouquin et ma vie est racontée sous mes yeux, quoi. Tu vois, des témoignages, à la fois de la théorie, etc., et des faits et gestes. Et là, je me dis, putain, chaud, quoi. Tu vois, la première fois, j'ouvre le bouquin, je lis les deux, trois premières pages j'arrive pas à le lire, en fait. Je le referme. Et c'est quelques semaines après où je me dis, tiens, c'est quand même bizarre que ce bouquin-là, j'ai pas réussi à le lire. Et en fait, à ce moment-là, je suis avec une fille. Avec qui ça se passe de moins en moins bien, et je ressens le besoin de mettre de la distance. Enfin, il y a un truc qui va pas bien, tu vois. Et donc, d'abord, je mets la théorie sur ce qui se passe dans mon couple avec la fille. Je mets un terme à l'histoire, ça s'arrête. Je me rends compte que c'est extrêmement compliqué de me défaire de cette fille-là, parce qu'elle veut pas me lâcher. Je reçois des mails culpabilisants, ce genre de trucs. Je me dis, putain, je connais ça, tu vois. Au fond de moi, je me dis, je connais la mélodie, quoi. Je connais la chanson. Et puis, je retourne dans le livre et là, il faut quelques semaines à mon cerveau pour être capable, en fait, d'accepter et d'assumer que c'était ma maman au cœur de l'histoire, quoi. Et donc là, je prends conscience que j'ai grandi sous emprise et je dois m'enfuir. Et ça, je prends 6-7 mois pour pouvoir réussir à partir parce que j'habitais dans le même appartement qu'elle. Elle m'a fait signer des contrats où en fait je pouvais pas bouger, elle me menaçait, elle avait pris l'ascendant sur moi, etc. Donc, c'est-à-dire que je vivais dans l'appart avec ma mère, elle m'adressait pas la parole, donc elle avait un visage froid, comme si en fait elle me niait et qu'on se connaissait pas, quoi. Donc, tu vois, moi je suis son fils, ça fait 25 ans que je pense que c'est ma mère et que j'ai une image d'elle comme ça. Et puis je vois une personne que j'ai jamais vue, que j'ai jamais rencontrée, qui est froide, qui est glaciale et qui est sans pitié avec son fils, tu vois. Et il y avait de la bouffe dans le frigo, moi j'avais plus d'argent, elle le savait très bien. Et par exemple, je pouvais pas me servir dans la nourriture, quoi. J'aurais pas pu prendre une bouteille d'eau sans avoir des répercussions. Et donc à ce moment-là, quelques soirées où je m'alcoolise, je prends des médicaments, enfin je me mets en danger parce qu'en fait c'est trop compliqué à assumer en fait. J'ai une phase de 4-5 jours aussi, je rentre dans un espèce de tunnel suicidaire dont je sors et c'est à ce moment-là, après 4-5 jours où en fait t'es inconscient, tu vois, je réalisais pas vraiment ce qui se passait, j'étais vraiment déconnecté de la réalité, comme dans une réalité parallèle et plus les jours, je passais ma journée à réfléchir à comment ça allait se passer, comment j'allais passer à l'acte et par quels moyens, enfin, la stratégie commençait à se mettre en place. Et je crois que le jour, enfin, à 24 heures de passer à l'acte, je ne sais pas d'où ça sort, j'ai pulsion de vie, genre comme si je suis au fond de la piscine, en mode et je tape du pied dans le fond et je me dis, allez, vas-y, maintenant, tu remontes, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je réalise que la consommation est un problème dans ma vie. Que je prends conscience qu'en fait, c'est un poids supplémentaire. Le fait d'avoir débloqué dans ma tête l'idée de l'emprise et d'avoir compris d'où venait mon mal-être, j'ai intuitivement compris pourquoi je me consommais, etc. Mais encore une fois, il faut plusieurs mois pour que je commence à vraiment concrétiser dans ma tête tout ça et que je comprenne vraiment que la consommation est un problème pour que la pièce tombe, on va dire, ouais.
Ouais, c'est un processus,
Ah
un
ouais.
événement a déclenché le reste. Vu que tu avais identifié la cause, la solution que tu avais trouvée n'était plus
C'est ça.
valable, en gros.
Mais par contre, l'année où je suis l'année la plus, en termes de quantité, et l'année la plus intense, c'est celle où je me suis mis le plus en danger. À faire des week-ends complets sans dormir, etc. C'est justement après ça. C'est l'année et demie après ça, où à la fois j'étais libéré d'un poids, mais à la fois je me retrouvais seul face à la vie, parce que pas de parents, parce que encaisser, enfin, quand t'as 25 ans de violence et que tu t'en rends compte, ah, ça remonte, et tu vois, tu passes dans un rotor, et ça s'arrête jamais, tu vois. Parce que, ok, t'as la pièce qui est tombée, mais maintenant le cerveau il doit se prendre tout dans la tronche. Et donc j'ai continué à me servir des produits pour encaisser ça, tu vois. Mais c'est seulement un an et demi après où là je suis à une soirée comme j'en faisais souvent où on me drogue à mon insu. Donc c'est après plusieurs mois d'escalade dans la conso, des jours sans dormir, etc. Une after avec une personne que je connais. Que je connais, mais pas, enfin, sans plus, quoi. 2 ou 3 jours qu'on n'a pas dormi, on se retrouve dans son appart, on boit des verres, on fume des clopes et on prend de la coke. Et à 2 heures du matin, enfin vers minuit, 1 heure du matin, il y a des gens que je connais pas qui arrivent. Trois, deux mecs, une meuf, on est sur un plan de travail dans une cuisine, un peu comme une after classique, j'ai envie de dire. Et ce qui se passe, c'est que 5 minutes après que les gens soient arrivés, moi je tire sur une cigarette et là, je me sens tombé, en fait. Je me sens paralysé. J'ai la capacité de respirer qui diminue, ma vue qui se brouille. Je sens vraiment mon cœur qui tape dans ma poitrine et qui veut sortir du truc. Je sens que j'ai plus de force dans les jambes, genre en mode comme si j'avais une. Ouais, plus de force, quoi. Mes muscles ne répondent plus. Mais par contre, dans ma tête, je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce que j'ai pas consommé de drogue, je sais que c'est une drogue. Réflexe, je regarde à la fois ma canette de bière et ma cigarette, mais je vois qu'autour de moi ils réagissent pas, qu'on me regarde en coin, mais qu'il n'y a personne qui me dit quoi que ce soit. Et donc là, là c'est la panique totale. Je me jette comme je peux dans le canapé en me disant, mais c'est pas possible, enfin, parce qu'ils doivent. Enfin, c'est comme si là je suis à 1 mètre de toi, tu me vois tomber, tu le sais, y a pas, tu le sais, y a pas de, tu vois, y a pas de doute. Et donc moi dans ma tête, je me dis, mais waouh, il va se passer quoi, tu vois. Et c'est, là, je passe deux heures ce soir-là, enfin 1 heure et demie, 2 heures ce soir-là sur le canapé, avec l'augmentation du volume sonore à peine 3 secondes après que j'ai atterri dans le canapé. Donc le baffle juste à côté de moi est mis à fond, mais vraiment, je me pose 1 minute après, le baffle qui va à fond. Et du coup, j'avais un téléphone sur moi et j'ai voulu faire semblant, parce que je comprends que je suis victime d'agression à ce moment-là, mais mon réflexe, c'est la survie. Dans ma tête, pas dormi, de l'alcool, plus de la cocaïne. Bon, j'étais pas complètement inconscient, mais je suis quand même dans un état, je suis pas de première fraîcheur. Mais quand tu ajoutes à ça, c'était un cannabinoïde, donc c'est du cannabis de synthèse, probablement déposé en liquide sur mes clopes. Mais quand tu ajoutes ça, déjà le mélange entre le cannabinoïde et l'alcool, ça démultiplie les effets. Donc quand tu as toutes les substances que moi j'avais déjà pris volontairement et que tu ajoutes ça dessus, bah, tu peux tuer quelqu'un, quoi. Concrètement, c'est extrêmement toxique. Donc moi, je me retrouve, mais à ce moment-là, je ne sais pas que c'est ça. Mais je me retrouve dans le canapé et avec mon téléphone, je fais semblant d'envoyer des messages, je fais semblant que je suis encore alerte. Parce que je me dis, si leur intention, c'était de me mettre KO et de, peu importe l'hypothèse, de vouloir faire quelque chose, me faire du mal, bah au moins, ils vont peut-être se dire, on va attendre. Enfin, j'essaie de faire passer le temps, en fait. Mais eux, en fait, ils continuent leur vie comme si de rien n'était dans la cuisine. Et puis à un moment donné, il y en a un qui dit, oh, ton pote, ça va pas fort, hein, mais genre, normal, tu vois, genre. Et donc moi, je me concentre sur faire semblant de me reposer, que ça va, et tu vois. Les gens qui étaient arrivés se barrent, s'en vont. J'entends la lumière qui s'éteint, j'entends que le gars chez qui on était va dormir. Et à ce moment-là, je me dis, bah, tu vois, je vais pouvoir sortir, pas aller faire la fête avec lui. Je voulais sortir de l'appartement et rentrer chez moi. J'essaie de sortir, il n'y a pas moyen de sortir, la porte est fermée. En fait, en me levant du canapé, je sens que je tiens pas sur mes jambes. Genre vraiment, j'ai pas de motricité en fait. En allumant la lumière, je me rends compte que je vois rien à 3, 4, enfin, en fait, là, il y a une plante à 2 mètres. Je sais qu'il y a un objet, mais je vois rien. J'ai la vue brouillée, quoi. Et c'est là que je sais que je suis pas, enfin tu vois, qu'il y a quelque chose, quoi, qu'il y a quelque chose de lourd, que c'est une drogue que je connais pas et qu'on n'est pas, enfin que c'était pas pour rigoler, tu vois. Je dois réveiller le gars parce que pas le choix, il faut que je sorte. Quand il arrive devant moi, je me rends compte que je sais pas parler, que je suis aphone, que j'ai mes mots qui sortent pas de la bouche, genre, j'ai les mots qui calent, quoi, comme ouais, genre y a rien qui sort. Je fais ce que je peux, je me force à lui dire que je veux sortir. Il prend l'ascendant sur moi tout de suite, il commence à me gueuler dessus, il commence à. Voilà, vraiment le schéma prédateur classique, quoi. Genre, t'as une victime qui se plaint, on prend de la force pour te dire non, 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 c'est toi qui es en tort, t'es à côté de tes pompes, t'hallucines ou je sais pas quoi. Et donc là, je fais ce que je peux, mais je le convainc d'ouvrir la porte, mais ça dure trop longtemps. Ça dure 10-15 minutes, mais ça dure beaucoup trop longtemps. Là, j'arrive à sortir de l'appartement et je rentre chez moi avec la mémoire des pavés sur le sol. Donc j'étais à 2,5 km de chez moi. Je me rappelais du trajet à pied, parce que je connaissais bien ma ville, etc. Mais par contre, une fois que je suis sur le trottoir, c'était la nuit, mais une fois que je suis sur le trottoir, je me rends compte qu'en fait, je vois rien, mais je vois pas les voitures arriver, je vois les lumières, j'entends les bruits, mais je suis dans un état, enfin c'est compliqué, tu vois. Et donc j'arrive à rentrer chez moi d'une traite, mais en traversant des boulevards où il y a du passage en bagnole, parce que moi il faut que je sauve ma vie, tu vois. Donc c'est ok, j'entends pas de bruit, je vois pas de lumière, j'avance et en fait je sais même pas par où je suis passé, tu vois. Bah si, je sais par quel chemin je suis rentré, mais ce qui se passait autour de moi, je dis des fois, j'étais dans l'état de la plus grande vulnérabilité. Tu serais venu me chercher, tu m'aurais mis dans une camionnette pour m'enlever. C'était le moment où en fait ma vie s'arrêtait là-bas, tu vois. Donc j'arrive chez moi et en fait le réflexe c'est que je vais prendre tous les couteaux que j'ai dans ma cuisine. Je me demande pas pourquoi, parce que j'avais peur qu'ils reviennent ou je sais pas. Et donc je me dis bon, s'il revient, je serai protégé. Je barricade, enfin je ferme la porte de ma chambre, etc. Et là, je fume une clope, tu vois. Et je me dis, ça va pas. Je sens, j'ai pas une remontée, enfin si, j'ai des effets qui reviennent. Mais je me rends pas compte tout de suite que c'est sur mes cigarettes. Et puis là, par contre, je vais dans la salle de bain. Et je vais voir ma tête dans le miroir, enfin, je vais me rafraîchir, etc. Et en fait, je vois ma tête comme je ne l'avais jamais vue, quoi. En ces temps de consommation, mes yeux qui sortaient de leur orbite, mes vaisseaux sanguins complètement explosés. J'ouvre la bouche, j'ai une pâte blanche, acide, jaune, qui tapisse toute ma bouche jusque dans le fond de ma gorge. Et je vois mes yeux, quoi. Enfin, je vois que je suis, tu vois, genre, même dans les films, les gens ont pas cette tête-là. Donc moi, j'ai peur de ma tête dans le miroir. Et c'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là, enfin c'est la combinaison des 2 heures à croire que je vais mourir dans le canapé, plus voir ma tête ce matin-là dans le miroir où je me suis dit, je me suis pas dit arrête la coke, c'est tu changes de vie en fait, tu vois. Et pour moi la cocaïne faisait partie de la vie à changer, mais je me suis pas dit faut que tu sortes de l'addiction, je me suis dit faut que tu arrêtes de te mettre en danger et de traîner avec des gens qui n'en valent pas la peine. Et ça va passer par déjà arrêter de sortir. Et la cocaïne faisait partie du truc, quoi. Donc c'est là que moi j'ai le déclic et que, comme on dit des fois, on touche le fond. Moi je touche le fond à ce moment-là. Et c'est ça que je dis, si je m'arrêtais pas à ce moment-là, je ne serais pas là aujourd'hui à 99% de sûreté, quoi.
Donc, il s'est passé ce déclic, à proprement parler. Qu'est-ce qui s'est produit ensuite? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qui c'est qui t'a aidé? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toi, tu es dans une posture d'aide des autres, où tu es très à l'écoute et tu sensibilises de manière générale sur l'addiction. Mais c'est vrai que pour en arriver à une telle distance, on va dire, parce que c'est vrai que maintenant, tu en parles avec de la distance, il y a dû avoir un long processus de reconstruction, si je puis dire, du
De
moins de.
construction.
De construction pour ça. Donc, comment tu t'y es pris et comment ça se passe? Parce que je pense qu'il n'y a pas de marche linéaire vers la sobriété, on va dire, et que c'est propre à chacun, chacune.
En fait, après cette soirée-là, réflexe numéro un, c'est de mettre une bombe dans mon milieu social, c'est-à-dire de me protéger, de faire de manière éthique et cordiale ce qu'il y a à faire, mais si c'est pas possible, de par tous les moyens arriver à ne plus être en contact avec les consommateurs et ce milieu-là. Donc je passe par voilà genre mon meilleur ami ça j'étais témoin d'un mensonge de tromperie depuis des années. Bah, j'ai appelé sa meuf, je dis écoute moi vous deux c'est plus possible, je porte le secret de machin, ton mec te trompe. Prends ça pour toi, je suis désolé que ce soit moi qui te l'apprenne, prends ça pour toi, mais éloigne-toi de lui. Et moi, voilà, tu vois, je ne veux plus rien entendre de vous. Et ça, c'est le genre de bombe que j'ai lâché, parce que j'étais qu'avec des personnes de toute façon qui étaient soit toxiques, soit malsaines pour moi. Et ça a été ma manière à moi de me dire, de toute façon, eux ne viendront plus te contacter parce qu'ils vont voilà, ils vont te mettre de côté. Mais en plus de ça, moi, comme j'aurais bah, posé des bombes chez les gens, etc., bah, je vais plus aller les recontacter. Donc il a fallu que je trouve par des moyens que j'avais à l'époque de m'isoler et de m'assurer que j'allais pas avoir un seul numéro à contacter du mec qui est un peu seul comme moi, qui avait envie de consommer, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc que je fais d'instinct. Et par contre, aucune idée de quelles ressources existent, de qui vers qui aller me tourner. Donc, tout ce qui est psychomédico-social en France, vous avez les CARUD, les XAPA, mais en Belgique, on n'a pas ce genre de structure. J'ai aucune idée que je peux aller voir un généraliste pour me faire, enfin pour poser des questions, ni que je peux aller à l'hôpital. Isolement, isolement total. Bon, isolement, à l'époque, j'étais dans une coloc, dans un loft où on avait 400 mètres carrés habitables. Donc, tu vois, je suis à l'isolement, mais je ne suis pas non plus dans une cave de 8 mètres carrés. Immense, immense séjour, beaucoup de lumière, etc. Donc, je suis isolé, mais dans un endroit un peu sécurisant. Je suis à la rencontre de Sophie, qui est une colocataire qui arrive quelques semaines après moi et qui change de ville, vient de la capitale parce qu'elle a besoin de changer d'air, changer d'environnement et elle est en train d'arrêter l'alcool. Et donc du coup je trouve une alliée là-dessus. Moi je viens d'arrêter la cocaïne et elle vient d'arrêter l'alcool. Elle a 10 ans de plus que moi et on se parle de nos vies. Elle me parle de sa vie, je parle de ma vie et en fait on se fait des soirées bière sans alcool à refaire le monde, parler de nos histoires familiales, etc. Je dirais, elle a un soutien, mais c'est pas formel. On se dit pas, tiens, on va se soutenir. C'est juste que on habite dans le même appartement et que c'est naturel. On se partage des choses. Et ça, après coup, je me rends compte que ça a été une béquille quand même assez assez importante, parce que ça nous a permis à tous les deux de pouvoir parler. Et par contre, moi, à ce moment-là, j'ai le réflexe, donc j'arrive, hein, je passe plusieurs mois sans sortir, sans consommer de cocaïne, j'arrive à, voilà, à me sevrer de la cocaïne, quoi. Ça prend, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en quelques mois d'abstinence totale, il faut un an d'accompagnement en général, mais moi, en quelques mois, l'envie irrépressible de consommer avait disparu. J'ai du mal à l'expliquer et les gens en général, quand je l'explique, ont du mal, pas à me croire, hein, mais c'est rare parce que sortir de la coke, c'est une galère de fou. Moi, je le vois au quotidien avec les gens qui écoutent mon podcast ou qui viennent me parler, etc. Donc voilà, je vais pas dire que je suis un peu gêné des fois de le dire, mais c'est la réalité. Tu vois, moi, en 3-4 mois, alors que je venais de cette année de consommation, l'envie de consommer, elle disparaît. Par contre, l'envie de sortir, l'envie d'être dans un état différent, etc., j'ai toujours un peu ce truc-là. Mais donc, je me bloque de tout, je ne sors pas, et à ce moment-là, je mets en place le projet de partir en Asie du Sud-Est, et l'objectif, c'est de passer 3-4 mois au Vietnam, parce qu'à ce moment-là, je commence à me lancer en tant que freelance, donc je fais la découverte de métiers comme le copywriting, où bah, c'est des mecs qui vendent leurs compétences de prestations de services, etc. Et donc, moi, je me dis, ben ouais, en fait, moi, aller travailler dans une entreprise, de toute façon, c'est pas possible. J'étais pas dans l'état pour le faire. Et j'avais quand même fait des études en relations publiques, donc écriture, marketing, prise de parole, tout ça. Je me dis, bon, je vais me former et je vais avancer. Je revends ma voiture et je revends tout ce que je peux revendre autour de moi pour me constituer un petit peu d'argent de côté. Je dois avoir 2-3 000 euros. À ce moment-là, j'achète un billet d'avion sans retour pour le Vietnam. D'abord pour la Thaïlande et je reste un mois en Thaïlande et puis après je vais au Vietnam parce que je voulais tester un peu ce mode de vie, digital nomade et compagnie. Et en même temps, je voulais en profiter pour souffler un peu parce que je venais quand même de 26-27 années appelons ça petite galère, enfin de grosse merde quoi en gros. Et je me dis, bah voilà, tu vas aller passer 3-4 mois, voir ce que c'est que la culture digital nomade là-bas, les mecs que tu suis sur internet, tu vas aller les rencontrer, tu vas voir un peu comment ça fonctionne. Et puis si ça te plaît, bah tu resteras là-bas, tu vois. Et un mois après que je sois en Asie du Sud-Est, bah, l'annonce de ce génial virus dont personne n'a entendu parler, qui est annoncé. Et moi, je vois ça depuis le Vietnam, tu vois. Et donc à ce moment-là, je me dis, ouais, ça a l'air sérieux parce qu'au Vietnam, ils ferment les frontières. Ils sont en 48 heures après l'annonce du truc, ils avaient tout fermé, tu vois. Donc je me dis, ouais, c'est pas une blague. Alors que chez nous, ouais, on a entendu parler d'un truc. Enfin, déjà, il a fallu une semaine avant qu'on entende parler quelque chose. Et quand on en a entendu parler, moi, au Vietnam, j'avais déjà les militaires avec des camions qui gueulaient dans la rue, rester, enfin, c'était sérieux, quoi. Et donc, à ce moment-là, je me dis, OK, je commence à recevoir les mails de l'ambassade et compagnie, derniers avions de rapatriement. Et je me dis, mais de toute façon, j'ai pas l'argent pour prendre l'avion maintenant. Je comptais sur les 3-4 mois pour économiser de l'argent que je touchais, des trucs que je faisais, etc. Mais je me dis, de toute façon, non, je n'ai pas vraiment le choix. Et en plus, je n'ai pas envie. Je viens de sous-louer ma chambre à la coloc, au loft où j'habite. Je n'ai pas vraiment les moyens de reprendre l'avion en rapatriement parce que le rapatriement était trop cher. Et dans les mails de l'ambassade, ils me disent, monsieur, si vous restez, on ne sait pas du tout quand vous allez pouvoir rentrer. Ça peut durer 6, 8 mois, 1 an, on n'en sait rien, quoi. Et moi, je me rappelle avoir pris la nouvelle comme en sautant de joie, quoi. Je me suis dit, bah, en fait, je reste. Mais il n'y a même pas de question à se poser. Et en fait, ça faisait 7-8 mois, donc j'arrête en mars 2019. L'annonce est janvier, début février 2019. Je suis presque à 1 an d'abstinence. Et donc tout va bien, tu vois. Je suis dans un contexte isolé, j'ai pas d'opportunité de sortie et compagnie. Et finalement, je resterai 2 ans au Vietnam, à toute la durée du truc. Puis je suis rentré progressivement par la Turquie, l'Albanie et l'Espagne en fonction des restrictions. Et entre-temps, bah, je me suis formé en tant que freelance, j'ai développé mon activité, j'ai commencé à avoir des revenus là-dessus. Mais retour en Belgique, plus la même personne, et qu'est-ce que je vais faire? Et pas vraiment d'attache, etc. Donc, je réussis à la fois mon sevrage, mon abstinence et tout ça, mais sans me dire je sors de l'addiction, c'est juste, faut que tu changes de vie, que tu arrêtes de te détruire, et la cocaïne en faisait partie. Et puis après 3 ans, je rentre, et un mois et demi après, bah, je reconsomme. Je reconsomme sur l'espace de 2-3 semaines, mais genre comme je savais le faire, quoi. Genre des week-ends, une soirée à Bruxelles, puis partir sur Cologne, et puis redescendre dans les Ardennes, enfin genre faire des kilomètres en train, en voiture, pour faire les plus grosses soirées de l'été, les festivals, etc. Avec de la cocaïne sans arrêt, parce que plus de moyens, parce que je savais très bien où aller, etc. Et je fais ça sur l'espace de 2-3 semaines. Et puis en fait, ça s'arrête. Et je me rends compte que, bah ouais, en fait, c'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis sorti de l'addiction et que cette vie-là est finie pour moi parce que je suis en dissonance cognitive, en fait, avec ce mode de vie-là. J'ai plus rien à raconter au mec qui tape de l'acé toute la soirée parce qu'en fait, moi, j'ai récupéré mes neurones. Mais les mecs avec qui je fais la fête, tu vois ce que je veux dire? On devient tellement con quand on en prend pendant longtemps, on s'en rend pas compte, mais on n'a rien à dire, enfin on n'a rien d'intéressant à raconter, et puis on a des comportements, on est uniquement sur la défense, donc on n'est pas dans l'échange ni quoi que ce soit. Et donc c'est une fois que ces 3 semaines-là s'arrêtent, que je comprends que j'ai consommé parce que je retraversais une zone de turbulence, que parce que je connaissais la cocaïne par cœur et que voilà, tu vois, je sais comment ça marche et où on en trouve. Et puis même moi, sous cocaïne, je connais ça par cœur, donc c'est pas difficile pour moi d'y retourner. Mais c'est à ce moment-là que je me dis, ouais, non, c'est fini en fait. Et c'est à ce moment-là que je prends conscience de tout le chemin parcouru, que les 3 années qui viennent de s'écouler, en fait, m'ont transformé. En fait, je disais, moi, je ne me suis pas reconstruit, je me suis construit. Parce que il a fallu que, ouais, toutes les choses importantes et identitaires chez moi, il a fallu que j'aille les chercher, que je les assume et que je les étudie consciemment. C'est-à-dire, la musique, ouais, quel genre de musique est-ce que j'aime bien? Ben ouais, mais j'écoutais de la techno parce que je suis rentré dans le milieu techno, mais est-ce que j'aime bien écouter de la pop? Est-ce que j'aime bien écouter des chansons dites de meufs ou ce genre de trucs que je n'osais pas écouter parce que chez moi, j'avais pas le droit vraiment d'exister, etc. Tu vois, donc ces 3 années-là, elles m'ont servi à chanter devant la glace, devant le miroir, à chanter des chansons qui me plaisaient, à je sais pas, même corporellement parlant, être tout seul sur des plages au Vietnam et juste, enfin, tu vois, t'as un délire, t'as envie de danser, il n'y a personne, enfin, tu vois, le genre de trucs. Et tout ça me remonte à. Ça correspond plus, quoi. Enfin, je reviens, je reconsomme et c'est plus la même personne. Et c'est à ce moment-là que je comprends que je suis sorti de l'addiction et j'ai pas de difficulté à ne pas reconsommer après, tu vois. Et c'est là que je commence à m'informer sur la partie plus science et compagnie, quoi. Théorie de l'addiction, qu'est-ce que c'est qu'une addiction, comment on tombe dedans, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les ressources pour s'en sortir, etc. Quelques mois plus tard, je traverse une période difficile financièrement parce que je suis rentré en Belgique et j'avais personne chez qui aller. Et donc, je me retrouve désinscrit des services de la population, donc officiellement SDF, pas à la rue, mais SDF. Et le truc, c'est que je loue des petits, pas vraiment des Airbnb, mais des chambres chez des gens, etc., sans contrat et tout, donc vraiment pas stable du tout. Et en fait, contre-coup du retour de 3 années à l'étranger et de mais j'étais sur une belle lancée et tout et maintenant en fait je me rends compte que j'ai tout à construire mais sur le plan social, le plan tu vois de ma vie mais j'appartiens à qui, j'appartiens à où, est-ce qu'elle est ma place et comment est-ce que je me fais ma place dans ce monde. Ok, t'as évolué, t'as avancé, etc., t'as fait des choses mais concrètement tu fais quoi? Et donc j'ai cette grosse période de remise en question. Et pareil, mon activité de freelance, grosse remise en question, parce que j'ai toujours travaillé sur des environnements où il y avait des valeurs fortes. Avant, c'était l'écologie, etc. Et je me dis, mais en fait, il me faut un truc où je puisse me battre au quotidien. Il me faut une activité où, en fait, parce que ma vie, ça a toujours été un combat déjà pour survivre à la violence que je survivais, puis survivre à la consommation, puis survivre après au sevrage, etc. Et le fait d'être loin seul et compagnie. Donc, j'ai toujours été dans cette dynamique-là. Du coup, il fallait que je sois dans un truc engagé comme ça. Et donc, là, les planètes se sont alignées. J'ai eu à la fois le sujet de l'addiction, la santé mentale, mes compétences à gérer les réseaux sociaux, mon recul sur mon histoire, ma capacité à en parler, et puis l'envie profonde d'en parler aussi, tu vois, enfin, qu'il y ait quelqu'un, on en parlait tout à l'heure, de ne pas avoir été entendu, de ne pas avoir été cru par des professionnels de la santé mentale. Là, je me suis dit, ok, vous m'avez pas écouté, pas cru, pas entendu. Maintenant, je vais faire les choses tellement bien que, voilà, vous allez me croire, m'écouter, m'entendre. Et en plus de ça, ça va peut-être servir à d'autres personnes. Enfin, je savais que ça allait servir à d'autres personnes. Et donc, dans ce petit Airbnb-là, chambre mansardée, parquet en bois, enfin, Ah, bref, c'est vraiment l'endroit parfait. J'écris un premier post en fait, LinkedIn, mais je me rends pas compte que j'écris un post LinkedIn. D'abord, j'ai des phrases qui me viennent comme ça, et puis je commence à écrire, et puis en fait, j'écris un premier post, et je passe, on appelle ça l'hyperfocalisation, c'est-à-dire je reste 3-4 heures sur mon post, je l'écris, et puis le lendemain, je reviens dessus, je repasse 2-3 heures dessus, donc au total, je passe peut-être 8-10 heures sur le post, parce que je vais raconter un truc tellement à la fois sensible, à la fois violent, que je me dis, je peux pas me louper. Faut que les formes, elles y soient, il faut que la qualité y soit, il faut pas que je paraisse pour le guignol qui vient raconter sa vie, tu vois, et pour se faire plaindre. Et donc, c'est comme ça que ça démarre la prise de parole dans cette période de turbulence, parce que je me dis, j'ai cherché pendant 30 ans ma place dans le monde, etc. Et là, en fait, c'est l'alignement de planètes qui me montre où est ma place. C'est-à-dire, de tout ça, j'ai la capacité de le communiquer. Et aujourd'hui, je vais aider les autres sur base de tout ce que j'ai traversé, parce que ce que j'ai à raconter, ça peut servir à d'autres. Et comme moi, les témoignages m'ont été d'une super grande aide à l'époque où je galérais. Tu vois, des émissions comme ça commencent aujourd'hui, par exemple. Je l'ai poncé, cette émission, en boucle. Il y a des épisodes que j'ai regardés une, deux, trois fois sur la partie emprise, manipulation, mais aussi sur la partie stupéfiant. C'était les sujets, tu vois, et même l'émission d'avant que j'ai encore oubliée. Qui était avec. Enfin, aujourd'hui c'est Faustine Bollard, mais avant c'était Sophie Davant, et même Jean-Luc Delarue à l'époque. Jean-Luc Delarue à l'époque, et ça d'ailleurs, quand j'ai commencé la cocaïne, je me suis dit, bah, lui il en a pris pendant des années, et si un adulte qui fait de la télé, il a pris de la coke et qu'il lui n'a rien arrivé, moi c'est que, tu vois, c'est qu'en fait de la coke c'est pas si grave, quoi. Et 2 ans après, 2 ans après il mourait. Donc. Et bref, j'ai pris la parole parce que je me suis dit que bah, c'est difficile à décrire, quoi. C'est vraiment un alignement de planètes, et la sensation de je suis à ma place, et puis je fais un premier poste, ça prend des proportions genre, auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Tu sais que si tu es sur LinkedIn, une plateforme plutôt professionnelle, et que tu parles d'addiction, il y a un potentiel de viralité, mais tu t'attends pas à ce que ça explose comme ça explose, quoi. L'intention n'est pas de faire ce que c'est devenu. Et en fait, quand je commence à recevoir, si tu veux, tous les messages tous les messages de personnes qui me disent, putain, merci d'en parler, quoi. Merci d'en parler. Moi, j'en suis à autant de jours. Moi, j'y arrive pas. Mon frère est mort. Mon fils est décédé de ceci, de cela. J'ai tous les témoignages de personnes qui en fait avait besoin que quelqu'un parle de ce sujet-là. Et comme moi, j'ai tellement travaillé les formes, etc., le message y passe très bien. Et du coup, bah là, ça confirme que je suis à ma place. Si en plus, déjà, rien que par les mots, ça aide des gens, bah, je continue, quoi. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 posts, 10 posts, et en fait, ça s'arrête pas. Et pendant 3 mois, ça explose dans tous les sens. C'est comme ça que je fais les premières interventions médias et que les choses commencent pour moi. Et à ce moment-là, bah, je prends du recul et je me dis, OK, comment est-ce que tu structures tout ça, tu vois? Qu'est-ce que tu vas faire de cette prise de parole? Parce que moi, genre, juste raconter ma vie, c'est pas l'objectif, tu vois. Genre, je suis content et toujours heureux de la partager, mais il faut que ça serve derrière un objectif plus concret. Et donc, c'est là que le podcast Sortir de l'addiction est né. C'est à ce moment-là que je commence à y réfléchir. Et je lance l'émission le 4 mai 2023, le jour de mes 30 ans, en mode, bah voilà, tu vois, nouveau départ, quoi.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que t'en tirerais de cette dernière aventure avec le podcast, les rencontres que t'as eues?
Bah, le podcast m'apporte beaucoup déjà à moi, parce que depuis toujours, j'ai besoin de profondeur, de sincérité, d'authenticité dans mes échanges. Et c'est quelque chose dans le monde d'aujourd'hui où tout le monde est un peu renfermé sur soi-même, qui est compliqué à aller chercher. Et moi, j'ai ce besoin naturel, tu vois, de connaître les gens, de les comprendre. Et si je parle pas avec eux, je les analyse ou je prends mes informations pour, tu vois, me sentir en sécurité et puis juger si j'ai envie de continuer la relation, conversation ou pas. Et moi, bah, passer 2 heures ou plus de conversation par semaine avec une personne sur un sujet où en fait on parle des vraies choses de la vie, tu vois, les trucs qu'on a auxquels on pense quand on est sur l'oreiller et qu'on dit peut-être pas à son copain ou à sa maman ou à sa copine, tu vois. C'est de ces trucs-là dont moi j'ai toujours eu besoin de parler, et c'est ces choses-là qui m'intéressent chez les gens. Et il n'y a pas de voyeurisme, et il n'y a pas de. Tu vois, c'est pas. Non, c'est viens, on parle de la vraie vie, tu vois. Et l'addiction, c'est le vecteur, c'est le sujet qui nous rassemble. Mais en fait, on parle de la consommation, mais on parle toujours des racines, de l'aspect émotionnel, de ce que tu vois. Et donc ça, d'un point de vue personnel, moi, ça m'apporte beaucoup et c'est un pilier aujourd'hui dans ma vie parce que j'ai besoin de cette connexion avec les gens, de cette profondeur, au moins 2-3 heures par semaine à cette intensité-là. Et après, ce que ça crée, bah, pour la personne qui a en face de moi, c'est déjà un espace de parole. Ce sont des gens qui, soit ça fait un moment qu'ils sont sortis de l'addiction et donc ça leur fait du bien de prendre du recul sur l'histoire, etc. Ou soit c'est des gens qui sont encore dedans et donc eux, moi, je leur donne une certaine marge de courage de... Ils ont fait la démarche de venir parler, donc d'une certaine manière, ils se sont un peu engagés. C'est toujours sur leur demande, hein. C'est pas moi qui les pousse. Mais ça permet à moi, comme aux invités, de continuer d'avancer dans leur propre chemin. Et puis alors, après, il y a les auditeurs, parce que là, aujourd'hui, on vient de dépasser les 10 000 écoutes par mois en récurrent. Donc, du coup, ça commence à faire beaucoup de monde qui cherche des solutions. Ou qui a envie de ne pas se sentir seul, ou qui a envie d'être réconforté, de savoir que non, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle si tu traverses ces choses-là, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle si tu n'arrives pas à t'en sortir, regarde, il y en a d'autres qui sont passés par là. Et je fais des formats longs, volontaires, déjà parce que moi j'adore parler et que j'adore écouter les gens, mais aussi parce que ça permet d'avoir une bulle, quoi. Tu vois, quand tu es dans la sécurité, dans la peur et dans le gros doute et la recherche de réconfort, parce que tu te sens pas bien, bah, tu as besoin d'avoir un endroit où c'est pas juste un contenu snack de 10 minutes. Non, tu as besoin que ce soit posé, que ça soit bien expliqué, etc. Et aussi parce que allez, sur 2 heures, on parle de choses dont les gens bah, parlent avec moi, dont ils n'ont jamais parlé avec personne. Donc on va vraiment dans l'essence même des conversations qu'en fait on devrait avoir plus souvent, tu vois. Peut-être pas avec tout le monde, je parle pas d'avoir des conversations intimes avec des inconnus, mais même entre amis et compagnie, on reste souvent sur des degrés de superficialité qui sont, tu vois, voilà, c'est aussi ma manière à moi d'apporter un peu plus de libération de parole, mais pas que sur l'addiction, sur les choses de la vie, quoi. Venez, on parle aussi des choses qui nous tracassent, des choses qu'on a vécues, etc. Et donc voilà, les gens viennent chercher un peu tout ça dans le podcast.